Le 18-20 commence comme il se doit par ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 7 septembre avec le journal de Sébastien Logeni. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel Sébastien, ce soir commence par des manifestations et un gouvernement en Afghanistan.
Des centaines de personnes se sont rassemblées dans les rues de Kaboul aujourd'hui pour contester les choix des talibans qui en ont profité pour reprendre la main politiquement. Ils annoncent ce soir leur gouvernement après des jours d'attente, un gouvernement sans aucune femme, explication dans un instant. L'angoisse et l'impatience pour les victimes des attentats du 13 novembre. C'est demain que commence le procès historique qui doit juger une vingtaine d'accusés. Que se passera-t-il demain? Quel est l'état d'esprit des centaines de parties civiles? Réponse dans ce journal. À suivre également l'hommage de la nation à Jean-Paul Belmondo. Ce sera jeudi aux Invalides. Emmanuel Macron au chevet des villes moyennes. La réforme des EHPAD qui se fait attendre et la première sélection pour le prix Goncourt. L'Académie se convertit à la non-fiction.
Et ce soir, à partir de 18h15, une émission un peu particulière à la veille de l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre et en cette semaine qui se terminera par l'anniversaire du 11 septembre 2001. D'abord, dans Un jour dans le monde, on va essayer de prendre une photo du monde 20 ans après le 11 septembre. En quoi, comment ces attentats qui ont changé le monde ont aussi bouleversé la géopolitique mondiale et ce qui reste bouleversé aujourd'hui? Où en sommes-nous de la menace terroriste dans le monde? Quelle forme a-t-elle pris? Quelle est sa mutation? À partir de 19h20, dans le téléphone sonne, à vous de poser vos questions autour de toutes ces thématiques. Vos interrogations sont les bienvenues. Le standard est ouvert d'ores et déjà et c'est le 01 45 24 7000.
France Inter.
Des centaines de manifestants donc qui défient le pouvoir des talibans.
Image saisissante, 3 semaines seulement après la victoire des fondamentalistes en Afghanistan, plusieurs défilés ce matin dans les rues de Kaboul, des Afghans qui dénoncent notamment la violente répression dans le Panjshir, des rassemblements vite dispersés par les forces talibanes à coups de tirs de sommation. C'est dans ces conditions que les talibans ont décidé d'annoncer enfin leur gouvernement, une façon de reprendre la main politiquement, attendu ce gouvernement depuis des jours. Bonsoir Éric Biagala.
Bonsoir Sébastien.
Et ce n'est pas du tout un gouvernement inclusif comme il le promettait.
Oui, on en est très loin du gouvernement inclusif pourtant annoncé. Le nouvel exécutif afghan est exclusivement composé de chefs talibans, presque tous issus de l'ethnie pachtoune. Aucune femme n'y figure bien évidemment. Le nom du premier ministre désigné est un peu surprenant au premier abord. Mohammad Hassan n'est pas un chef taliban de premier plan, même s'il est réputé avoir fait partie des fondateurs du mouvement. Il est surtout dépourvu d'assises sociales ou tribales importantes. Celui qui faisait office de vrai chef politique des talibans, le Mollah Baradar, sera son second. Si Mohamed Hassan a été choisi, c'est peut-être surtout pour mettre à la tête de l'exécutif un homme neutre, n'appartenant pas à l'une des deux factions principales, celle des talibans du Sud et celle des talibans de l'Est. Les chefs de ces deux factions empochent pour leur part les deux ministères régaliens par excellence. Le Mollah Yacoub, fils du Mollah Omar, chef historique des talibans, devient ministre de la Défense. Et c'est Sirajuddin Haqqani qui prend le portefeuille de l'intérieur. Il était jusque-là à la tête du réseau Haqqani, très proche d'Al-Qaïda. Le FBI a d'ailleurs émis un avis de recherche non d'une prime de 5 millions de dollars pour toute information pouvant entraîner la capture de Sirajuddin Haqqani. Il est maintenant donc ministre de l'Intérieur de l'Émirat d'Afghanistan.
Éric Biagala, merci. Ajoutons que d'autres manifestations ont eu lieu aujourd'hui en dehors de Kaboul, à Herat notamment dans l'ouest du pays. On compte 2 morts et 8 blessés. Des tensions dans la rue également au Brésil. C'est aujourd'hui jour de fête nationale et le président Bolsonaro en berne dans les sondages. En a profité pour appeler ses partisans à se réunir. Des milliers de manifestants pro-Bolsonaro en ce moment rassemblés à Brasilia dans l'attente d'un discours de leur leader avec cette question. Vont-ils marcher sur la Cour suprême comme l'y incite le chef d'État brésilien poursuivi dans plusieurs affaires judiciaires?
C'est demain que s'ouvre à Paris le plus grand procès criminel jamais organisé en France.
Le procès des attentats du 13 novembre 2015 dans le box 14 accusés présents, dont le seul membre du commando encore en vie, Salah Abdeslam. 6 autres seront jugés par défaut. Dans la salle, ou plutôt les salles d'audience, plus de 1700 parties civiles représentant les victimes. Une audience prévue pour durer près de 9 mois. Bref, un procès hors norme que France Inter a choisi de couvrir en intégralité. Bonsoir Sophie Parmentier.
Bonsoir Sébastien.
À moins de 24 heures donc du début des audiences, comment les parties civiles se sentent-elles?
Alors l'ouverture de ce procès est évidemment pour toutes les parties civiles un moment important, un moment que certaines attendent depuis longtemps avec impatience, un moment que d'autres redoutent. Il y a beaucoup d'anxiété chez la plupart d'entre elles, la peur de se replonger dans des douleurs abyssales, aussi bien pour les survivants que pour les proches des victimes tuées. Mais au-delà des angoisses, eh bien toutes les parties civiles, même celles qui ne viendront pas, disent à quel point ce procès leur semble nécessaire pour que la justice passe, même si les assaillants du 13 novembre ne seront pas dans le box, ils sont tous morts. Concernant les accusés présents, il y en aura 14, vous l'avez dit. Quelques parties civiles ressentent de la colère à leur égard. Elles espèrent que les accusés parleront sans trop y croire.
L'audience commence donc demain, Sophie, à midi et demi exactement à Paris, sur l'île de la Cité. Que va-t-il se passer exactement lors de cette première journée?
Alors, midi et demi, c'est le début, en effet, dans l'immense salle de 45 mètres de long construite spécialement pour ce procès, avec des écrans de retransmission au sein même de cette salle de bois clair. Car pour les parties civiles qui seront installées sur les bancs du fond, eh bien, il sera difficile de voir la cour et le box des accusés. Cette audience ouvrira justement avec l'appel des parties civiles. Et il y en a tant que cet appel durera 2 jours. Ce n'est qu'au troisième jour, vendredi, que le président de la Cour d'assises spéciale, Jean-Louis Périès, commencera l'effroyable lecture des faits.
Sophie Parmentier, l'une de nos reporters avec Charlotte Piret, à couvrir le procès des attentats du 13 novembre, dossier complet à retrouver sur franceinter.fr, et puis à écouter aussi un nouvel épisode inédit du passionnant podcast de Sarah Guibaudot, 13 novembre, l'enquête, nouvel épisode à retrouver dès ce soir. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo, mort hier à l'âge de 88 ans, auront lieu vendredi matin à 11h en l'église Saint-Germain à Paris, un office suivi d'une crémation dans l'intimité. Mais avant cela, c'est la nation qui lui rendra hommage, comme pour Charles Aznavour, cérémonie aux Invalides pour cette légende du cinéma français. Ce sera jeudi, hommage national à ce casse-cou désinvolte dans une enceinte militaire bien solennelle. Alors qu'en pensent les Parisiens? Vous êtes allé leur demander, Yann Gallic.
Pour un acteur de la trempe de Jean-Paul Belmondo, cet hommage national est la moindre des choses, estime Eric. Cet habitant du quartier des Invalides est un grand admirateur de Belmondo et de sa filmographie.
Invalide, ben c'est le lieu où l'on rend hommage au monstre sacré. Et je pense que cet hommage national rendu à Belmondo aux Invalides, ça tombe sous le sens. Mais j'aurais fait peut-être un truc à la Johnny Hallyday. Le faire se promener dans Paris, dans son cercueil, et demander aux Parisiens d'être là, ça aurait été pas mal.
Chez les bouquinistes des Quais de Seine, installés à 2 pas de la rue des Saints-Pères, là où vivait Jean-Paul Belmondo, les avis sont en revanche un peu plus partagés.
Pour moi, cet hommage national est amplement mérité, parce que oui, c'est un trésor national. Belmondo est un immense acteur. Il mériterait d'avoir sa place comme un grand écrivain ou un grand philosophe à sa place au Panthéon, voilà.
Moi, les hommages nationaux, c'est pas vraiment ma tasse de thé.
C'est trop solennel, les Invalides, pour un acteur comme Jean-Paul Belmondo.
S'il arrivait en hélicoptère encore, ça irait, mais bon... C'est un peu surprenant de célébrer Belmondo aux Invalides.
Quoi qu'il en soit, pour ce bouquiniste, Bébel restera un monument du cinéma français qui aurait mérité peut-être un hommage plus simple et plus populaire, dit-il, à l'image de ce qu'était Belmondo.
Yann Gallic, merci. Ajoutons que Jane Birkin, elle, âgée de 74 ans et victime hier d'un léger accident vasculaire cérébral, va devoir se reposer. Elle annule donc ses engagements jusqu'à la fin de l'année. Pas question qu'on dise qu'il n'y en a que pour les grandes villes. Après Marseille, Emmanuel Macron était au chevet cet après-midi des villes moyennes. Le chef de l'État qui a pris la parole pour la 4e rencontre du dispositif Action Cœur de Ville ou comment revitaliser les centres urbains de villes moyennes. Le président en cette année présidentielle qui a tenu, Maxence Lambrecq, à marquer son attachement aux élus locaux et aux territoires.
Et oui, président des villes et des campagnes, Emmanuel Macron est venu vanter le bilan de son dispositif Action Cœur de Ville, lancé en 2017, avec 3 milliards déjà déployés, 2 milliards à venir, 80 000 logements rénovés, de nouvelles rues piétonnes, des promenades, de vieux bâtiments réhabilités dans un peu plus de 200 villes moyennes, sans grande réforme de décentralisation, à l'heure où son adversaire, Xavier Bertrand, en promet une justement, vantant une république des territoires.
La seule décentralisation qui compte, c'est celle des projets. C'est celle de l'efficacité, c'est celle que nos concitoyens voient, bien loin de tous les débats, et beaucoup plus utilement que si nous avions passé des milliers d'heures à débattre de savoir si le travail d'Action Logement, de l'ANA, de la Caisse des dépôts devait aller à la région, au département ou à la ville.
Emmanuel Macron contre tout Big Bang institutionnel. Il veut faire de son pragmatisme un marqueur dans cette campagne à venir et ne peut pas s'empêcher à la fin de tacler, sans les citer, Éric Zemmour et Marine Le Pen.
Nos compatriotes ne veulent pas justement de grands débats théoriques sur l'identité en leur expliquant ce que ça devrait être. Ils veulent retrouver le contrôle et la possession de leur vie, de leur ville, de leur paysage, de leur destin. Parce que c'est ainsi qu'on bâtit chacun notre identité.
Message très politique et promesse renouvelée. Le dispositif Action Cœur de Ville continuera jusqu'en 2026, un quinquennat de plus.
Maxence Lambrecq, un premier bilan de la rentrée scolaire sous Covid. Après moins d'une semaine de cours, 545 classes ont dû être fermées en primaire, soit environ 0,1% des classes, chiffre annoncé par Jean-Michel Blanquer à l'Assemblée nationale. Les bonnes nouvelles économiques continuent, elles. Dernière prévision optimiste de l'INSEE, l'année devrait se terminer sur une croissance de 6,1%. 0,25%, la circulation du virus du Covid n'a pas provoqué cet été, selon l'INSEE, de recul de l'activité économique. C'était une promesse d'Emmanuel Macron en 2018, la loi Grand Âge et Autonomie. On a appris ces derniers jours que cette réforme pourrait ne jamais voir le jour avant la fin du quinquennat. Derniers arbitrages attendus cette semaine. Pourtant, la crise sanitaire a révélé de multiples problèmes. Une population qui vieillit rapidement, des métiers du grand âge pas assez bien payés et des EHPAD en souffrance. Seule proposition à ce stade du gouvernement, la secrétaire d'État à l'autonomie Brigitte Bourguignon qui souhaite changer le nom, dit-elle, des EHPAD, trop connoté. Une proposition bien en dessous des besoins des patients et de leurs familles, Cécilia Arbonnat.
Une déflagration émotionnelle, voilà comment Florence et sa sœur Anne-Laure ont vécu le placement en EHPAD de leur maman il y a 2 mois.
C'est un choc, c'est extrêmement douloureux. Après 40 ans dans sa maison et son jardin, du jour au lendemain, se retrouve, malgré toutes les bonnes volontés, dans un lieu qui reste triste, qui craint l'isolement et une grande solitude.
Pour le directeur général du groupe Arpavie, qui gère 45 EHPAD en France, c'est à la société de regarder la fin de vie en face.
L'âge médian entre en EHPAD, c'est 88 ans. Et la durée médiane de séjour, c'est 1 an et 1 mois.
Jean-François Vitou.
L'EHPAD, ce ne sera jamais une sorte de Club Med avec des petites personnes âgées. Ça n'a pas été conçu pour cela. Mais non. C'est un endroit où on doit faire en sorte que les gens viennent pour mourir dans les meilleures conditions possibles.
Favoriser le maintien à domicile, comme le demande le gouvernement, oui. Mais avec quels moyens? Interroge le docteur Sarah Thomas, gériatre en Seine-et-Marne.
La gériatrie de ville n'existe pas ou très très peu, puisque c'est pas une spécialité reconnue en tant que telle. Donc les gériatres qui s'installent en ville, en gros, s'ils sont conventionnés, sont payés comme un médecin généraliste. Il n'y a pas forcément d'alternative aux EHPAD. C'est du très bon nursing, c'est-à-dire que ce n'est pas un lieu médicalisé au sens propre du terme.
Des soins bienveillants, certes, mais qui parfois maintiennent en vie des personnes déjà très diminuées.
Cécilia Arbonnat.
Allez, on termine, Sébastien, avec une académie Goncourt plus audacieuse que prévu.
L'académie qui a rendu public aujourd'hui sa première sélection de romans en vue du prix 2021, l'un des moments les plus attendus de l'année dans la vie littéraire. 16 titres, parmi lesquels se trouve forcément le ou la successeur d'Hervé Le Tellier, prix de l'an dernier. Et parmi les heureux élus, Christine Angot, Philippe Jaénada, en passant par David Diop. Une sélection cette année qui fait la part belle à la non-fiction et aux réalités du temps, Ilana Mor-Youssef.
C'est une liste avec des stars, Christine Angot, Philippe Jaénada, des valeurs sûres, Agnès de Sarthe, Clara Dupont-Moneau, et même un premier roman, François Noudelman. Une liste variée pour Didier Decoing, le président du jury.
Il y a 7 femmes sur 15, c'est pas un quota mais c'est pas mal. Il y a 2 Africains haïtiens. C'est une liste assez éclectique dans laquelle, moi, il y a un livre que j'adore, mais je vous dirai pas lequel parce que c'est mon chouchou, je vais le défendre et j'espère qu'il aura le prix en finale. Mais il y a un livre admirable, exceptionnel, formidable dedans.
On n'en saura pas plus pour l'instant, mais s'il y a un point commun à tous ces livres, c'est qu'ils sont en prise avec les préoccupations de l'époque. Beaucoup sont d'ailleurs des ouvrages de non-fiction.
Les thèmes qui sont abordés par les livres qui sont dans cette liste sont, me semble-t-il, un certain nombre de thèmes qui sont dans l'esprit des lecteurs et des lectrices, qui sont des thèmes qui intéressent des Français aujourd'hui.
On citera l'inceste pour Christine Angot, le viol pour Elsa Fotorino et Tanguy Vielle, l'esclavage avec David Diop, le racisme avec Louis-Philippe d'Alembert, les dérives identitaires avec Abel Quentin, l'antisémitisme avec Anne Berest et Sorge Chalandon. Au fond, une littérature qui se demande qui nous sommes.
Ilana Mor-Youssef, un dernier mot de football, Fabienne, avec ce match de qualification ce soir pour le Mondial 2022. France-Finlande, c'est à 20h45 à Lyon.
Merci beaucoup Sébastien Logeni, merci, à demain.